gaat.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous et Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Ils sont venus, ils sont tous là. Hélène Manarino et son portrait inattendu, ce sera aux alentours de 10h20. Bertrand Chamerois et son écran de veille. Eva Rock et son zapping du lendemain. Et dans quelques instants, Charles Decamp et son journal des médias. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct et vous pourrez podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média, ce sera avec Carole Gessler, la présentatrice du 19-20, anime un débat consacré à la lutte contre le sida, une soirée spéciale ce soir sur France 3. On en parle également avec Fred Colby, militant à l'association Aide. Nos invités ensuite, Christophe Jacubizine, l'ancien journaliste politique de LCI passé sur BFM Business. On va lui demander pourquoi. Il présente ce soir la 16e édition des BFM Awards à 21h. Là aussi, beaucoup de choses à dire. Enfin, la jeune chanteuse phénomène Iseu pour son nouvel album. Il s'appelle Brut, juste pour situer. Il faut donner son âge pour avoir le droit de voir ses clips sur YouTube. Sulfureux, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour.
La colère des producteurs de reportages, la blague de trop, un nouveau média, un manchot qui chante et une enfant qui gagne.
Et non l'inverse, on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ?
Bataille de poids lourds hier, Titanic sur TF1 face à Skyfall sur France 2. Au bout du compte, c'est James Bond qui s'est largement imposé. 4 900 000 téléspectateurs sur France 2 et 21,5% de part d'audience. TF1 n'est que 3e avec Titanic. 3 500 000 téléspectateurs, 18,7% de part d'audience, mais l'honneur est sauf, 31% et la première place auprès des femmes de moins de 50 ans. Entre les deux, c'est France 3 qui est deuxième avec les enquêtes de Vera, 3 800 000 téléspectateurs au compteur, soit 15,6% du public.
Ça, c'était pour hier soir et samedi soir, puisqu'on est le week-end.
Voilà, la course a été relativement serrée, mais TF1 l'a emporté avec la finale de Masked Singer qui a signé son record de la saison, 5 400 000 téléspectateurs au compteur, soit 24,3% du public et 41% des femmes de moins de 50 ans. France 3 n'était pas si loin derrière avec Mongeville en inédit. La série policière pointe à 5 100 000 téléspectateurs, soit 19,6% du public. Et France 2 n'a pas à rougir grâce au rugby. France-Italie a fait frémir 4 200 000 personnes pour 16,9% de part d'audience.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec la tribune de journalistes et de dirigeants de médias contre la validation des reportages par les autorités.
Oui, c'est une tribune qui est parue ce week-end et qui dénonce de nouvelles entraves à la liberté d'informer. Dans la ligne de mire des signataires, les conventions que les sociétés productrices de reportages doivent signer pour pouvoir filmer les forces de l'ordre et plus largement les pouvoirs publics dans l'exercice de leurs fonctions. Les autorités concernées réclament un droit de visionnage avant diffusion. Le contenu ne doit notamment pas être choquant ou porter atteinte à leur image. Inacceptable selon les signataires qui rappellent que chaque chaîne et chaque société de production assure déjà un contrôle en amont, qu'il soit juridique ou déontologique en ce qui concerne les reportages qui sont produits et diffusés.
Et cette contestation intervient alors que les médias sont déjà mobilisés contre la loi dite sécurité globale.
Oui, et particulièrement contre son article 24 qui veut limiter la capacité des journalistes à diffuser l'image des forces de l'ordre. Alors ces conventions existent depuis plusieurs années déjà, mais les signataires assurent que ce sont de nouveaux alinéas de ces conventions qui posent problème. Il donne au pouvoir public l'autorisation de modifier le reportage si son contenu n'est pas conforme à l'éthique ou à la déontologie. Des termes très flous qui mettent à mal, selon eux, leur capacité d'informer.
Le monde de la presse perd l'un de ses grands noms.
Oui, Jean-Louis Servan-Schreiber est décédé ce week-end des suites du Covid. Il avait 83 ans. C'est lui qui, en 1967, avait créé le magazine L'Expansion. Après avoir commencé sa carrière aux Échos ou à L'Express, journal lancé par son frère Jean-Jacques Servan-Schreiber. Plus récemment, en 1997, il avait racheté Psychologie Magazine, qu'il avait considérablement développé. Le tirage était passé de 75 000 à 350 000 exemplaires en quelques années. Bernard Pivot, avec qui il avait créé le magazine Lire en 1975, lui a rendu hommage sur Twitter. « J'ai toujours été impressionné par sa capacité à innover ou rebondir, sa puissance de réflexion et d'organisation, ses jugements, son calme », a écrit l'ancien présentateur d'Apostrophe.
Le Focus Média du jour, c'est un nouveau média en ligne créé par Bernard de la Villardière.
Il s'appelle Néo, c'est une nouvelle marque 100% vidéo qui sera sera accessible sur tous les réseaux sociaux. Plusieurs types de formats sont attendus, des formats magazine ou d'actualité, mais aussi des interviews, des portraits. Le tout raconté en 3 à 5 minutes. Parmi les vidéos déjà publiées, un gros plan sur des bonnes sœurs passées expertes dans l'art de faire du fromage, des conseils cinéma ou encore une interview de cobaye du vaccin anti-Covid. Mais face à Brut, Loopsider ou encore Combini, Néo veut se différencier. Le média a une ambition, communiquer de l'énergie positive et redonner la fierté d'être français. Bernard de la Villardière veut en finir avec ce qu'il appelle l'autoflagellation permanente, comme il l'a expliqué à Louise Bernard.
Un média national, généraliste, qui cultive la proximité, qui met en valeur les initiatives locales, les engagements, les projets. Tout le tissu des paysans, des artisans, des petits chefs d'entreprise dans les territoires, avec l'envie d'insister sur le commun, sur ce qui nous rassemble, sur le fait qu'on est quand même un pays formidable.
Pour financer Néo, Bernard de la Villardière a noué un partenariat publicitaire privilégié avec le groupe M6. Le lancement officiel a lieu ce lundi, mais une petite dizaine de vidéos sont d'ores et déjà en ligne.
On ne plaisante pas avec l'émission L'heure des pros.
Sébastien Thoen a été viré de Canal+ après avoir participé à une parodie de l'émission de Pascal Praud qui est diffusée sur CNews. Une parodie dans laquelle il se moque du journaliste et de son émission de débat. Selon le site Les Jours, elle n'aurait pas du tout plu à Vincent Bolloré, le grand patron du groupe Canal, alors qu'elle avait beaucoup amusé Pascal Praud lui-même. Journaliste sportif sur Canal+, Sébastien Thoen avait enregistré cette parodie dans le cadre d'une campagne de pub pour le site de paris en ligne Winamax. La vidéo avait rencontré un joli petit succès à sa mise en ligne avec 300 000 vues en une semaine. Mais depuis le licenciement de Sébastien Thoen, le compteur de vues a explosé pour atteindre 1 600 000 visionnages. Un joli coup de pub pour Winamax.
C'est ce qu'on appelle l'effet stressant. On n'aurait peut-être pas parié là-dessus, mais la France a remporté une compétition internationale hier.
Oui, ça faisait 43 ans qu'on l'attendait. La France a gagné l'Eurovision. Enfin presque. Hier, en Pologne, la jeune Valentina a remporté l'Eurovision Junior face à 11 autres pays. La petite fille de 11 ans, révélée dans The Voice Kids, a séduit le jury, mais aussi le public, avec son titre « J'imagine ». Voilà, la victoire a été très nette avec 200 points au compteur, soit 48 de plus que son plus proche concurrent, l'Azerbaïdjan, et 57 de plus que l'Espagne qui finit troisième. Alors je précise que l'Eurovision Junior, c'est depuis 2003, hein, c'est beaucoup moins ancien que l'Eurovision. Ouais. L'an dernier, la Française Carla avait dû se contenter, elle, de la cinquième place avec son titre qu'on avait aussi beaucoup entendu, Bim Bam Toi.
Et en parlant de vainqueurs, on en parlait tout à l'heure dans les audiences, Masked Singer, ça s'est terminé samedi, mais qui a remporté cette saison 2 ?
Eh ben, c'est le manchot qui s'est imposé. Alors il faut avouer qu'il n'y a pas eu de vraie surprise quand la chanteuse Larousso a retiré son masque. On se souvient d'elle bien sûr pour son énorme tube Tu m'oublieras qui a dominé les charts français à la fin des années 90 et les enquêteurs et le public avaient reconnu sa voix. La chanteuse a expliqué à Louise Bernard ce qui l'avait poussé à accepter de participer à l'émission.
Ça permet aux gens de se recentrer sur l'essentiel même d'un chanteur, c'est-à-dire sa voix, son interprétation. C'est ce qui m'a séduit aussi dans ce programme. Et je suis très heureuse de ça parce que j'ai vu beaucoup de compliments, de gens qui m'ont redécouvert aussi, qui ont dit « c'est dingue, je savais que Larousso chantait bien, mais elle m'a bouleversée avec cette interprétation. » Je suis très fière d'avoir fait « Tu m'oublieras », je le porte vraiment très fièrement. Mais c'est vrai que parfois, j'aimerais aussi qu'on écoute sans forcément me rattacher tout le temps à cette chanson-là. Et grâce au manchot, j'ai réussi à vivre ça.
Merci le manchot. Ce retour sous les projecteurs a permis à Larousso de signer un contrat avec le label TF1 Musique. Elle sortira dès demain une reprise d'un titre qu'elle a interprété dans Masked Singer et avec lequel elle avait vraiment ému les enquêteurs. On écoute en exclu un tout petit aperçu de sa version de Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine.
Mauvaise nouvelle pour les fans de déco, on change de sujet. Une émission emblématique vit ses dernières semaines.
La Maison France 5 s'apprête à fermer ses portes. C'est ce qu'a révélé ce week-end le site puremedia.com. Après 17 ans d'antenne, le dernier inédit de l'émission présenté par Stéphane Thébault sera diffusé le 12 décembre jusqu'au début de l'été. France 5 proposera ensuite des rediffusions de la Maison France 5 et la chaîne planche actuellement sur un nouveau programme de déco.
Et pourquoi France 5 arrête cette émission ? Ça marchait plus ?
Ça marchait plutôt pas mal. Près de 800 000 téléspectateurs le vendredi soir en prime, soit 3,4 44% du public depuis la rentrée. Mais depuis le couvre-feu, France 5 l'avait relégué le samedi après-midi pour proposer des vendredis soirs 100% spectacle. Selon Pure Média, la chaîne envisage de pérenniser cette programmation culturelle, ce qui aurait précipité la fin de la maison France 5.
Et à propos de culture, on termine ce journal avec une demande inattendue du ministre de la Culture britannique.
Il s'appelle Oliver Dowden et il souhaiterait que Netflix fasse une précision importante au début de chaque épisode de sa série The Crown. Voilà ce qu'il a déclaré au Mail on Sunday. C'est une magnifique œuvre de fiction, mais il devrait être très clair dès le début que ça n'est que de la fiction. Je crains que les générations qui n'ont pas vécu ces événements confondent la fiction et la réalité. Fin de citation.
On en avait justement parlé ici dans Culture Média. Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour a parlé d'une soirée spéciale sur France 3 consacrée à la lutte contre le sida. Un film 120 battements par minute sera diffusé, puis suivi d'un débat animé par la journaliste Carole Gessler. On sera avec elle et Fred Colby, militant au sein de l'association Aide. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
On parle beaucoup moins du sida ces derniers mois et pour cause, voire ces dernières années. Et pourtant, la bataille contre la maladie n'est pas gagnée, loin de là. Le sida existe encore, il frappe encore et le risque, avec la crise sanitaire actuelle, le Covid, c'est qu'elle se développe et que la transmission du virus ne reparte à la hausse. Où en est la maladie en France? Où en est la recherche? Comment vivent les malades? C'est pour répondre à cette question, entre autres, que France 3 consacre une soirée spéciale à la lutte contre le sida. Aujourd'hui, il y aura un film, 120 battements par minute, de Robin Campillo, puis un débat autour des 30 ans de combat contre le VIH. Bonjour Carole Gessler.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présentatrice, faut-il le rappeler, du 19-20 sur France 3. Et c'est vous qui allez animer ce débat. Débat auquel va participer Fred Colby. Bonjour.
Bonjour.
Vous militez au sein de l'association Aide. Vous êtes séropositif et vous racontez votre parcours et votre combat dans un livre. T'as pas le sida, j'espère. C'est le titre aux éditions Libri Nova. Carole Gessler, cette soirée, est organisée à la veille de la journée mondiale de la lutte contre le sida. Où en est la maladie? Où en est ce combat?
Écoutez, c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu et c'est normal, nous sommes tous, on va dire, concentrés sur la lutte contre la Covid, mais c'est vrai qu'il y a encore 6000 contaminations par an en France et c'est un chiffre qui ne baisse pas. Fred pourra vous en parler, il a fait beaucoup de prévention. Ça ne baisse pas parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'information, la prévention, elle est en panne en France. On a fait un petit reportage où on montre bien que les jeunes, la capote, le préservatif, on le prend moins, c'est moins un réflexe en soirée, qu'on connaît pas tous les traitements préventifs qu'on peut prendre pour se protéger quand on a des comportements à risque ou des traitements qu'on peut prendre post-exposition quand on a eu un comportement à risque. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle moins. Je pense que c'est Didier Lestrade qui sera notre invité aussi ce soir, qui lui a été des premiers combats d'ACT UP dans les années 90, qui a inspiré notamment le film 120 battements par minute et qui nous dit finalement cette maladie, elle est passée de mode. Alors qu'on ne guérit toujours pas du sida. Il faut pas oublier ça. Même le virus, il reste toujours à l'intérieur de l'organisme. On l'anesthésie, mais on n'arrive pas à guérir de cette maladie.
La phrase de Didier Lestrade fait froid dans le dos, même si je sais qu'évidemment c'est ironique, mais passée de mode, comme si une maladie pouvait être à la mode. Pourquoi organiser un débat, Carole Gessler? Est-ce qu'il y a encore des désaccords concernant la lutte contre le sida?
Non, il y a pas de désaccord. Il y a toujours d'autres priorités, je dirais. Mm-hmm. Professeur Françoise Barré-Sinoussi, qui a co-découvert le virus en 83, qui sera notre invitée ce soir, elle nous dit il y a encore des combats à mener, justement pour qu'à un moment donné, dans les traitements, on soit encore plus opérationnel. Il y a toujours ce vaccin, ce virus, il est retors. On est toujours face à un mur, mais on progresse. Ouais. Et pour ça, on a besoin de la recherche, de la mobilisation, et tant qu'on ne guérit pas de ce virus, il faut s'en protéger, et c'est ce qu'on doit dire, nous, parents, l'école, la société, les médias, et c'est ce que fait France 3 ce soir.
Alors, au cours de ce débat, vous allez revenir sur les 4 dernières décennies de lutte contre le sida. La première étape, c'était la découverte du virus, vous l'évoquiez. On est en 1984, on va vous faire entendre un document d'époque, c'est sur Europe 1, ça s'appelait Docteur Europe.
Le sida est une maladie qui apparaît maintenant comme relativement en développement. Elle apparaît clairement liée à la présence d'un virus. Ce virus est transmis apparemment par le sang, la salive, le sperme. Et par conséquent, il est extrêmement important de pouvoir en détecter la présence. Tous les porteurs ne présentent pas la maladie. Par conséquent, il existe des porteurs qui apparaissent comme, jusqu'à nouvel ordre comme étant des porteurs sains.
Jusqu'à nouvel ordre, on était en 84, Fred Colby, des porteurs sains, on sait aujourd'hui que c'est très rare.
Oui, alors en fait, ce qu'il faut surtout retenir aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, quand on est dépisté et traité, les traitements sont tellement efficaces qu'on ne transmet pas le VIH en fait. C'est ce qu'on appelle le TASP, traitement comme prévention, indétectable égale intransmissible. Et ça, c'est une information super importante qu'il faut vraiment marteler parce que pour moi, si vous voulez, elle entraîne aussi moins de peur des personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire que quand on sait que la personne ne peut pas transmettre le VIH, du coup, ça incite aussi les gens à aller se faire dépister. Et le dépistage, c'est un gros sujet aujourd'hui dans la lutte contre le VIH.
Je continue cette histoire des médias, puisque c'est la culture des médias, ça nous intéresse. Mm-hmm. On saute, on passe de 84 à 94. Le sida prend de l'ampleur dans les têtes. Les médias se mobilisent. Il y a eu un programme unique sur les 7 chaînes alors disponibles. C'était le premier SIDAction, 6 heures de direct. C'était un événement pour que les Français prennent conscience de la réalité, de la gravité de la maladie. Europe 1 l'avait suivi avec un malade du sida et ses proches, des proches déçus de ce qu'ils avaient vu.
Il faut que les gens voient. S'ils ne voient pas, ils ne comprennent pas et ça reste abstrait. Les malades, on ne les voit pas. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont chez eux et les gens n'ont toujours rien compris parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le sida. Ils ne voient pas, ils ne visualisent pas.
Il aurait fallu montrer des malades, la réalité de la maladie, c'est-à-dire des malades dans des chaises roulantes, montrer la maigreur de la maladie, parce que quand les gens sont malades, ils sont maigres, montrer ce que c'est vraiment la maladie. Ça, on ne l'a pas vu encore.
Montrer la vérité.
Montrer la vérité.
Fred Colby, je vous voyais hocher la tête, vous êtes d'accord avec ce qui avait été dit, on était en 94, alors, il faut montrer la maladie.
Alors oui, en 94, par contre aujourd'hui on est en 2020, et c'est là où toute la différence elle est. En 96, les trithérapies sont arrivées, ça a changé fondamentalement donc le visage de la maladie, et aujourd'hui je pense qu'au contraire, il faut montrer des séropos qui vont bien, comme moi par exemple, ouais. Moi, je vais bien, je suis en bonne santé, parce que pourquoi ? Parce que ça, encore une fois, ça dédiabolise un petit peu les personnes vivant avec le VIH, et ça permet aussi aux gens d'aller se faire dépister encore une fois, c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a 25 000 personnes en France qui sont séropositives et qui ne savent pas, et qui ne vont pas se faire dépister parce qu'ils pensent qu'un diagnostic du VIH, c'est la mort. Alors qu'aujourd'hui, on a des traitements qui permettent de vivre bien et longtemps. Donc le message essentiel aujourd'hui, c'est faites-vous dépister.
On continue de parler de cette soirée spéciale sur France 3 consacrée à la lutte contre le sida avec Fred Colby de l'association AIDE et Carole Gessler, qui reste avec nous. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On est avec Fred Colby, auteur de T'as pas le sida, j'espère, publié aux éditions LibriNova. On en parle avec lui de cette émission qui sera diffusée ce soir sur le plateau de France 3. Il y aura le film 120 battements par minute et puis un débat animé par Carole Gessler qui est avec nous. Ce sera 23h30 ce débat. On parlait du SIDAction il y a quelques minutes, Carole Gessler. Pourquoi ce genre de grosse émission statutaire créée sur le modèle du Téléthon n'existe plus aujourd'hui et est-ce que vous le regrettez ?
C'est pas qu'elle n'existe plus. C'est vrai qu'on est cette année notamment a été une année très particulière 2020. Voilà, à la fois en mars, la Journée mondiale du SIDA. C'est pour ça que France 3, on a voulu marquer le coup et se dire que même si cette année 2020 a été entièrement, on va dire, consacrée avec toutes nos énergies sur ce Covid, on ne doit pas oublier une épidémie qui est toujours là en France. Et Fred le disait très bien. J'ai le message aujourd'hui et cette année. C'est vraiment se faire dépister, parce que si on se fait dépister, on peut avoir un traitement de suite au bout de 6 mois, 8 mois, avoir une charge virale indétectable, donc on n'est plus on ne contamine plus son conjoint. Fred, peut-être que vous pouvez le raconter, Fred. Vous vivez avec votre compagnon qui est séro-négatif. Voilà.
Moi, je suis dans un couple séro-différent, donc mon conjoint est séro-négatif, et mon traitement protège mon partenaire, en fait. Pour rire, il dit des fois que je suis son préservatif vivant, quoi. Mais c'est vrai, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment marteler, en fait. Aujourd'hui, on a tous les outils pour mettre fin à l'épidémie. C'est-à-dire que si toutes les personnes qui sont exposées au VIH se font dépister et traiter, soit avec le traitement préventif qui est la PrEP, soit avec le traitement pour les personnes vivant avec le VIH, on peut mettre fin à l'épidémie. On a les outils. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté politique. Ouais. C'est-à-dire que le VIH, comme le Covid, comme toutes les grandes épidémies. C'est une épidémie aussi sociale. Donc on n'est pas tous égaux par rapport au VIH. Il y a des populations qui sont plus exposées.
Lesquelles ?
Alors lesquelles ? Les hommes gays et bisexuels, ouais. Les personnes nées à l'étranger et surtout les femmes d'origine Afrique subsaharienne. Ouais. Aujourd'hui, c'est les publics les plus exposés au VIH. D'accord ? Et malheureusement, c'est aussi les publics qui subissent le plus de discrimination. On le sait, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus touché par le VIH. Il se trouve que c'est aussi le département le plus touché par la Covid-19. Tout ça, c'est pas un hasard. C'est pour ça que AIDS lance demain une grosse campagne donc, autour des discriminations que vous pouvez trouver sur le site de AIDS et pour expliquer qu'en fait, les discriminations sont aussi liées aux contaminations.
Justement, dans la lutte contre l'exclusion sociale, c'est ce qu'a choisi de mettre en avant l'association AIDS dans sa dernière campagne. On écoute.
Merci. On m'appelle parfois le séropos. D'autres fois, le malade. Pourtant, je m'appelle Erwan. Le VIH m'atteint. Certains m'enfoncent. Avec AIDS, je me relève.
Fat Colby, le sida, ouais. C'est encore une maladie honteuse ?
Mais oui. Malheureusement, en 2020, parce que ça touche à la sexualité, parce que ça touche à l'intime. Moi, quand je fais des témoignages, il y a des gens qui me disent « t'avais qu'à mettre une capote » ou « tu l'as bien cherché ». On est toujours dans la culpabilisation des séropos, comme s'il avait fait exprès. C'est comme quand on dit à une femme qui s'est fait violer « t'avais qu'à pas mettre une mini-jupe ». Enfin, on est vraiment dans un discours très moralisateur, très culpabilisant. Et il faut arrêter avec ça, en fait.
En même temps, pardon de dire ça, mais beaucoup de maladies sont toujours honteuses. On continue à dire qu'une personne est mort des suites d'une longue maladie, parce qu'on n'ose pas prononcer le mot cancer.
C'est vrai.
La recherche a fait des progrès assez remarquables, au point d'avoir transformé un virus meurtrier en maladie chronique. Ouais. L'un des pas décisifs, vous l'avez dit, c'était la trithérapie. Il y a eu des témoignages, un témoignage recueilli à Europe 1 en juin 96. C'est ancien, et pourtant on a du mal à s'y faire.
Les gélules doivent être entre 30 et 40 par jour, ce qui est lourd. Je les supporte relativement bien, j'ai cette chance-là, mais c'est lourd, c'est difficile à avaler. Il arrive des moments où les gélules installées sur la table avant le repas, on a du mal à les prendre. Mais bon, on les prend quand même, mais c'est pas toujours facile.
Que de progrès accomplis en 25 ans, mais c'est dingue de constater à quel point les mentalités évoluent lentement, malheureusement beaucoup moins vite que la recherche. Ouais. On ne meurt plus du sida en France aujourd'hui, ou alors vraiment à la marge ?
Alors c'est très très rare en France les cas de gens qui décèdent. Il faut savoir que le sida, c'est le stade avancé chez les personnes qui n'ont pas accès à un traitement. Donc en fait, chez les personnes en général qui ne sont pas dépistées, qui ignorent et qui au bout de plusieurs années sont hospitalisées en stade sida. Mais aujourd'hui, plus de 90%, même presque 95% des personnes dépistées sont sous traitement, ouais. En charge virale indétectable et ne peuvent pas transmettre le VIH. Et moi, je réagis par rapport à votre extrait. Et effectivement, les trithérapies, quand elles sont arrivées en 96, c'était une révolution parce que tout à coup, les séropos ont dû faire le deuil du deuil. On leur a dit qu'ils allaient mourir, et là, on leur a dit en fait, vous allez vivre. D'accord ? Donc, c'était hyper violent. En plus,
c'est violent, mais c'est une bonne nouvelle, non ?
Oui, mais
le deuil du deuil, oui. Moi, je le prends tout de suite. Hein.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que psychologiquement, c'est des gens qui s'étaient préparés à mourir aussi, qui avaient arrêté de travailler, qui n'avaient plus de projet de vie, etc. Donc, il a fallu réapprendre à vivre, etc. En plus, les premiers traitements, vous l'avez entendu, c'était 25 cachets par jour. Aujourd'hui, moi, j'ai 4 cachets par semaine. 4 cachets par semaine. C'est l'allègement thérapeutique. C'est pour vous dire le progrès qu'il y a eu en 25 ans. Et ça, il faut le dire. Hein.
Puisqu'on parle de progrès, on parle beaucoup de vaccins ces derniers temps. Plusieurs vaccins contre la Covid en moins d'un an. Près de 40 ans après la découverte du VIH, il n'y en a toujours pas contre le sida. Pour quelle raison ?
Alors, il n'y a pas de vaccin parce que c'est très compliqué. Parce que le VIH est un virus très complexe. Par contre, il y a quelque chose qui se rapproche du vaccin et dont on ne parle pas assez, c'est la PrEP. La PrEP, c'est un traitement préventif que prennent donc les personnes qui sont très exposées au VIH et qui est l'équivalent presque d'un vaccin. C'est un traitement quand même révolutionnaire qui a permis dans certaines villes comme San Francisco, par exemple, de pratiquement éradiquer l'épidémie du VIH. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut parler. La PrEP est remboursée en France depuis janvier 2016. Malheureusement, elle n'est pas déployée à l'échelle nationale. Il n'y a pas de campagne nationale. Aujourd'hui, le ministère de la Santé s'est pas focalisé sur ce sujet-là. Et c'est dommage. Voilà.
Carole Gessler, vous allez parler de la PrEP ce soir, j'imagine ?
Exactement, ça va être un de nos axes, notamment puisque ce que disait très bien Fred, on a les outils aujourd'hui pour faire baisser ce chiffre de 6000 contaminations par an en France. Ouais. On a tous les outils en matière de prévention, on a les outils médicaux. Maintenant, il faut en reparler du sida. Ce soir, c'est une façon de le faire. Et moi, ce que j'aime bien, vous disiez, le SIDAction, il y a moins ces grands barnums autour du sida. Et ben, ce soir, sur France 3, on a choisi la porte d'entrée de la fiction parce que si vous avez vu ce film 120 battements par minute, ouais, restez les trois premières minutes, vous resterez les deux heures du film et derrière vous regarderez le débat. Je crois beaucoup au filtre de la fiction, inspiré évidemment d'un moment vrai, d'Act Up, avec ce combat des militants au début des années 90. On est dans la violence, dans l'urgence du combat, et vraiment, je trouve que c'est une autre façon de parler de cet enjeu de santé publique. Et franchement, c'est une responsabilité collective, je le disais. C'est à la fois l'école, les médias, les parents, la société dans son ensemble.
Merci beaucoup, Carole Gessler. Je rappelle que vous serez ce soir sur le plateau de France 3 pour animer ce débat consacré à la lutte contre le sida à 23h30, donc après la diffusion de ce film assez extraordinaire, 120 battements par minute. Merci également Fred Colby d'avoir été avec nous sur ce plateau, auteur de T'as pas le sida, j'espère, avec un point d'exclamation, un point d'interrogation. C'est évidemment ironique, c'est publié chez LibriNova. Merci d'avoir été avec nous tous les deux en direct sur Europe. Dans un instant, on va parler des BFM Awards, une cérémonie qui récompense les meilleurs acteurs de l'économie française. Nous serons avec son présentateur, le journaliste Christophe Jacubizine. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Christophe Jacubizine.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste avec déjà une sacrée carrière, ancien journaliste économique au journal Le Monde, c'est pas rien, ancien chef du service politique de TF1. C'était à ce titre que vous étiez co-animateur du débat de deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Exactement.
Et vous êtes depuis la rentrée dernière le présentateur de Good Morning Business sur BFM Business, c'est couplé à RMC Story, on va en parler. Vous étiez ce matin en direct et vous le serez encore ce soir à 21h puisque vous allez présenter la 16e édition des BFM Awards, c'est sur BFM Business en même temps sur RMC Story. Normalement, c'est une remise de prix en public. Ce soir, que va-t-on voir ? Qui sera là dans le public ?
Alors ce soir, il n'y aura pas de public. On va avoir une émission de télévision consacrée aux entrepreneurs et aux entreprises qui ont traversé cette crise et qui vont nous donner des solutions pour rebondir et essayer de repartir sur une croissance économique tonitruante.
Bonne annonce.
Ce soir, rendez-vous de la réussite française, la 16e édition des BFM Awards récompensera les entrepreneurs, moteurs de l'économie, dans différentes catégories. Les BFM Awards présentés par Sandra Gandoin et Christophe Jacubizine, ce soir à 21h05 sur RMC Story.
Donc, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, ce sera co-présenté avec Sandra Gandoin. Il n'y aura pas de public pour cause de Covid. Pourquoi avez-vous maintenu la cérémonie ?
Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a envie de se retrouver, qu'on a envie de célébrer les entreprises, leurs salariés, les entrepreneurs qui ont vécu quand même une année 2020 absolument abominable, on peut le dire, pourri, j'allais dire.
Pardon, mais ils ne sont pas tous cabossés ?
Et ils sont cabossés, mais ils sont résilients. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, alors c'était très marquant en septembre, quand on a fait la rentrée de l'émission cette année, j'étais bluffé par la volonté de repartir, de redémarrer, d'oublier ce mauvais souvenir. Et puis évidemment, patatras, quelques semaines plus tard, on est reparti sur un deuxième confinement. Et là, ils étaient cabossés. Là, j'ai vu des chefs d'entreprise et des patrons qui en avaient ras-le-bol et qui se demandaient si, là, pour le coup, ils allaient survivre. Et puis, ça, c'était vrai jusqu'à il y a 15 jours. Et puis alors là, la lumière au bout du tunnel, les vaccins sont arrivés avec les taux de 90% de succès pour deux des vaccins, Moderna et BioNTech. Et là, on s'est dit, ça y est, on va sortir de tout ça.
Pas de public ce soir, mais des invités.
Des invités, et quels invités ? Parce qu'effectivement, d'abord, je ne peux pas tout vous dire, parce que c'est un palmarès. Donc, il y a par exemple l'entrepreneur de la décennie, vous allez voir.
Ah non, ça, c'était les catégories. Mais moi, je veux parler des invités, ceux qui ne vont rien gagner. Il y aura Bruno Le Maire.
Bruno Le Maire.
Ministre de l'économie.
Oui, tout à fait. Il y a Moreno aussi, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes qui sera sur ce plateau. Il y a Carlos Tavares, le patron de PSA qui est en train de fusionner Fiat Chrysler, qui remettra le prix au manager de la décennie puisqu'il était le lauréat de l'an dernier.
Je souris, on voit que vous faites de l'économie parce que vous dites Chrysler. Donc moi, je dis Chrysler.
Ah oui, ça dépend. Voilà. Les deux sont possibles.
Chrysler. Hélène Darroze, Christophe Michalak, Tony Estanguet, ils ne vont rien gagner, eux.
Ils ne vont rien gagner, mais ils sont là parce qu'ils font partie des acteurs de l'économie. Hein. Hélène et Christophe, la cuisine et la pâtisserie, ils ont tellement souffert pendant cette crise. Tony Estanguet qui prépare des Jeux Olympiques où les joueurs ne peuvent même plus s'entraîner pour les compétitions. Donc forcément, tous ces gens-là, ce sont des acteurs de l'économie.
Tony Estanguet qui ne prépare plus les Jeux Olympiques dans son canoë, mais
non.
Il est président du comité Paris 2024. Alors on arrive au lauréat. qui va gagner, plutôt, pas qui va gagner, mais qui seront les lauréats et dans quel domaine? Il y a 6 grandes catégories.
Ah, il y a plein de catégories. Il y a d'abord la catégorie, donc cette année exceptionnelle, on a choisi de remettre un award de l'entrepreneur ou du manager de la décennie. Il y a aussi la révélation de l'année. On a aussi, on aime beaucoup les French Tech hein, sur Good Morning Business et sur BFM Business. Il y aura donc le prix de l'entrepreneur de l'année, de la start-up, de la saga familiale, parce que c'est une particularité de l'économie française, hein, des grandes dynasties familiales qui transmettent d'enfant en enfant, parfois d'enfants en beaux enfants, ouais. L'entreprise. Et c'est pas rien parce que ce sont des entreprises qui sont dirigées différemment des autres en général.
Je souris parce que Carlos Tavares, il s'appelle pas Peugeot.
Non, il s'appelle pas Peugeot, c'est vrai.
Il s'appelle pas Citroën non plus.
Parfois, il faut aller chercher des managers de talent à l'extérieur du cercle familial.
Dans son édito de présentation, Alain Veil, qui est le directeur général d'Altice France, Altice France qui chapeaute BFM TV, Alain Veil met en avant, c'est le titre, la France qui résiste, qui affronte et qui entreprend. Alors affronter, entreprendre, d'accord, mais convoquer la résistance, est-ce que c'est pas un peu trop ?
Ben on l'a fait en fait pendant plusieurs mois. On avait une rubrique qui s'appelait La France qui résiste parce que c'était une vraie résistance pour ces chefs d'entreprise qui perdaient parfois du jour au lendemain 90% de leur chiffre d'affaires, qui ont tout fait pour que leurs salariés soient restés avec eux. Et c'est vrai que grâce au gouvernement, les prêts garantis par l'État, le chômage partiel, peu de d'entreprises ont été amenées à faire des plans sociaux. Vous savez par exemple qu'au troisième trimestre, Philippe, il y a eu moins d'entreprises qui ont fait faillite que l'an dernier. À la même époque.
Je l'ai appris et je me suis même demandé pourquoi et j'ai eu l'explication. C'est grâce aux plans sociaux et grâce à tout le système, à l'écosystème social
grâce au
chômage
partiel et aux prêts garantis. Alors, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, on va se réveiller que tout d'un coup, toutes ces entreprises qu'on appelle les entreprises zombies, c'est-à-dire qu'en fait, qui survivent grâce à des aides...
Ah, alors, puisque vous en parlez, je vous ai regardé ce matin et j'ai appris, j'ai découvert ça. Les entreprises zombies, elles sont mortes, elles sont vivantes en même temps. C'est 16% des boîtes en France. C'est quoi une entreprise zombie?
Mais parce qu'en fait, l'économie, c'est la destruction créatrice en permanence des boîtes fermes parce qu'elles ont échoué, leurs modèles ont échoué et d'autres créent. Évidemment, le jeu, c'est qu'il y ait plus de création que de destruction. Et il y a ce volet-là que vous décrivez, 16% d'entreprises qui, normalement, auraient dû disparaître cette année, mais elles ont bénéficié des prêts garantis par l'État et donc elles survivent alors qu'elles n'ont aucune chance économique d'exister encore dans un an.
Ouais, donc, mais quand on voit ça, on se dit, c'est financé, on va le dire les choses. Si Coluche était là, il ne rigolait pas, c'est avec votre pognon.
L'effet d'aubaine des prêts garantis par l'État. Finalement, l'État a fait des chèques sans regarder parce qu'on n'avait pas le temps. Hein. Quand vous aidez 500 000 entreprises, c'est ce qui s'est passé pour les prêts garantis par l'État, vous n'avez pas le temps de regarder chaque dossier, donc vous arrosez les entreprises zombies.
Voilà, mais c'est quand même pas très très sympathique pour les gens qui payent. Alors, je reviens à cette arme de résistance. Il m'a d'autant plus frappé que les altermondialistes, les anticapitalistes et autres chantres de la décroissance prétendent, eux, résister au capitalisme, au business et même au palmarès.
Ouais,
tout le monde
même,
résiste alors.
Et même résister à la croissance. Oui. Il y a des décroissants, il faut les respecter pour leurs idées. Mais moi, par exemple, personnellement, c'est pas ma conviction. Je pense que c'est dans la croissance. Après, elle peut être durable, elle peut être écolo, elle peut être responsable. Mais la croissance, malheureusement, on n'a rien inventé mieux que le capitalisme aujourd'hui pour nourrir 8 milliards de gens dans la planète et pour donner envie d'aller bosser. Le système communiste, les gens n'avaient plus envie d'aller bosser. Donc moi, si vous avez une autre idée, Philippe, je suis preneur.
Hein. Moi, j'ai juste une toute petite idée. On marque une pause, on se retrouve avec Christophe Jacubizine. C'est ma seule idée de la matinée. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Christophe Jacubizine qui présente ce soir, comment vous l'intitulez ça ? Je vais retrouver. La 16e édition des BFM Awards à 21h. Avec Sandra Gondouin. C'est la première année que vous présentez la soirée. Vous avez le trac ?
Alors, c'est la deuxième, parce que l'an dernier, je l'ai fait au théâtre des Champs-Élysées. C'est ma première. Écoutez, oui, j'ai le trac. On a toujours le trac sur des grosses émissions. On n'a plus le trac quand on fait des émissions, Philippe, comme la vôtre, parce qu'on est dans un centre d'ordre. On est chez soi. Là, oui, c'est le trac d'abord parce que c'est un plateau télé, le studio 1 du groupe BFM, qui est un grand studio, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'invités. Donc, bien sûr, on est un peu stressé.
Vous aviez le trac lors du débat présidentiel ? C'était le 3 mai 2017.
Je crois que je m'en souviens plus en fait, tellement j'avais le trac. Bien sûr qu'on était liquéfiés, avec Nathalie Saint-Cricq, on était liquéfiés. D'abord parce que c'était pas prévu que ce soit nous qui le présentions. Ça s'est fait 5 jours avant le débat.
Ah oui, ça y est, je me souviens plus qui, mais certains présentateurs avaient été récusés.
Exactement.
Par l'un des deux camps, si je me souviens bien.
Par les deux camps d'ailleurs. Donc du coup, on a été parachutés parce qu'on était l'un et l'autre chef du service politique de nos antennes respectives. Donc déjà, on n'avait pas eu le temps de s'y préparer psychologiquement. Et puis bien sûr, mais l'enjeu est énorme. Enfin, c'est le débat d'une vie en fait. Vous avez 20 millions de téléspectateurs, le destin du pays se joue. Et en même temps, vous êtes une speakerine ce soir-là parce que.
Ah bon ?
Mais non, mais oui, parce que c'est pas un exercice de d'émission politique. Au fond, c'est très formaté par les deux candidats qui décident des thèmes et de l'ordre des thèmes, etc. Donc vous passez les plats et puis surtout vous ne devez surtout pas intervenir. Le débat il est entre deux. C'est un match de boxe. L'arbitre ne va pas commencer à boxer l'un ou l'autre. Donc en fait on est là en spectateur et on essaye que ça se passe bien, que les temps soient respectés. C'est la première fois que j'étais speakerine.
Alain Veil est allé vous chercher à TF1, vous l'avez dit, où vous étiez le chef du service politique il y a 2 ans, après le départ de Stéphane Soumier. Avec quels arguments ?
Il m'a dit, en fait, je connaissais bien Alain Veil parce qu'il m'avait embauché déjà pour être patron de RMC 7 années plus tôt, enfin même 11 années plus tôt. Il m'a dit, Soumier s'en va, j'ai besoin de toi. Je dis oui, d'accord, Alain, mais moi je suis à TF1. Il m'a dit non, mais là t'as fait le tour, t'as fait le débat de la présidentielle, tu feras jamais rien de mieux là-bas. Donc reviens annexe Radio TV, viens faire de l'économie, tu sais bien faire et tu vas t'amuser.
Alors vous allez vous amuser, mais presque en catimini, comment on passe de la grand-messe du 20h qui est regardée parfois par 6 ou 7 ou 8 millions de spectateurs pour se réveiller au milieu de la nuit, parce que c'est ça le travail d'un matinalier, pour arriver à 7h ou à 6h du matin à prendre l'antenne avec des audiences, confidentielles.
Mais bien sûr confidentielles.
Enfin, vous êtes posé la question.
On a quand même 500 000 téléspectateurs maintenant sur Story et un peu plus de 150 000 en radio, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec une audience comme celle de TF1. Bah, d'abord, je pense que notre métier, c'est l'exercice de l'humilité. Hein. Je veux dire, on n'est pas le 20h où les chroniques ne nous appartiennent pas.
Non, il y a des gens qui ont envie d'être vus, il y a des gens qui ont envie d'être montrés, et il y a des gens qui s'en fichent.
En fait, moi, j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de m'instruire et d'apprendre. Et c'est vrai que la politique, je ne peux pas dire que le système politique actuel où finalement il n'y a pas beaucoup d'opposition parce qu'elles sont sous opposition assez extrême, soit passionnant à suivre, à courir. Ouais. Et donc je commençais un peu à tourner en rond en politique et que l'économie, j'avais fait ça il y a de nombreuses années et que c'est vrai que j'avais un peu perdu le fil de l'écho. Et là, quand je me rends compte de tous les débats qu'on a sur la révolution des voitures autonomes, électriques, à hydrogène, l'intelligence artificielle qui va remplacer des millions d'emplois, mais en même temps qui va permettre d'en créer autant, tout ça c'est passionnant, c'est ça les vrais enjeux de notre société. Il y a 20 millions de Français qui travaillent dans une entreprise et qui potentiellement peuvent être intéressés par ce qu'on raconte le matin, il fallait leur parler.
Vous êtes content de retrouver ce soir Bruno Le Maire ?
Oui.
C'est votre ami ?
Ami, c'est pas un ami, Bruno Le Maire c'est le ministre de l'économie, je le connais depuis très longtemps parce qu'il était directeur de cabinet de Villepin à Matignon et que souvent je l'appelais quand j'étais au Monde pour avoir des infos sur ce qu'allait préparer
Villepin. Je sais, vous avez fait cette confidence au magazine Charles, vous suiviez Villepin pour Le Monde, Dominique de Villepin pardon, Bruno Le Maire était son directeur de cabinet et Dominique de Villepin donnait tous les mois une conférence de presse et en fait vous spoiliez la conférence de presse, Le Maire vous balançait tout en exclusivité, ça sortait dans Le Monde.
Alors j'étais un peu le monsieur Pignon hein, de l'appel téléphonique de
Monsieur
de
Pignon, Le Maire. C'est quoi, c'est le
parce que c'est le dîner c'est de con.
Monsieur Pignon, c'est le dîner de con.
Mais oui, mais parce que en fait, bah après,
vous étiez le con sans le savoir.
J'avais le droit. Non, mais oui, là où j'étais le con, c'est que j'avais les infos en exclusivité pour Le Monde, donc on sortait à 11h, donc tous nos confrères qui étaient très jaloux parce qu'ils avaient la conférence de presse à midi et qu'il y avait tout dans Le Monde. Sauf que ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris après, c'est que Bruno Le Maire me mettait en haut-parleur pour que Dominique de Villepin écoute et sache quelles seraient les questions qui lui seraient posées par les journalistes.
Pardon de rigoler.
C'était pas très honnête, mais bon, en même temps, moi j'avais l'info et c'était un gagnant-gagnant.
Un mot de la connivence dans cette même interview à Charles, c'est le numéro de juin 2018, passionnant. Ouais, relisez cette interview, non mais je disais ça pour les auditeurs, je disais pas ça pour vous, j'imagine que vous le savez. Vous disiez, quand je sentais que je pouvais devenir ami avec un ou une politique, je lui jouais un sale tour, je grillais un off par exemple.
Ça c'est vrai. J'avais cette mauvaise réputation, c'est-à-dire qu'on savait que je pouvais griller des off.
Est-ce que vous faites pareil avec les chefs d'entreprise maintenant?
Parce alors, vous... j'ai pas eu besoin pour le moment, mais je suis capable de le faire. Jusqu'à présent, j'ai pas encore atteint ce degré peut-être de complicité ou de connivence ou en tout cas de connaissance de mon interlocuteur pour le faire. Mais je le ferai.
Et donc, ils vous écoutent, ils vont être contents de savoir ça.
Mais non, parce que c'est...
Je raconte aux auditeurs ce qu'est un off. Non. Un off, c'est quelqu'un qui te dit, je te dis ça, mais c'est off, tu le sors pas à l'antenne, et bim, le journaliste le sort quand même à l'antenne.
Oui, mais... Mes clients, si je puis dire, c'est les auditeurs et les téléspectateurs. C'est ni les hommes politiques, ni les chefs d'entreprise. Donc à un moment donné, le contrat de confiance, il est avec ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Sinon, si on est connivant, on tue le métier.
En parlant de politique, c'est vrai que François Hollande a demandé 2 fois votre tête à la direction de TF1.
C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit à l'époque, effectivement, parce que j'avais écrit un livre sur Valérie Trierweiler, d'ailleurs sur lequel, avec Alix Bouyaguet, on a eu un procès. Mm-hmm. Et effectivement, à chaque fois, apparemment, la petite phrase de François Hollande qui terminait les conversations avec la direction de TF1, c'était « et Jacques Cuisine, ça serait quand même bien de s'en séparer
». Ouais. Et le procès, vous l'avez gagné ?
Alors, on l'a perdu, voilà, atteinte à la vie privée. On n'a pas souhaité faire appel parce qu'on voulait sceller l'affaire. Donc voilà, dont acte.
Merci beaucoup, Christophe Jacubizine. Je rappelle, la 16e édition des BFM Awards, c'est ce soir à 21h sur BFM Business et RMC Story. C'est co-présenté avec Sandra Gondouin. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Philippe.
Culture Média continue, il y aura le rappel des titres de 10h. Et puis nous recevrons Eva Rock pour un zapping du lendemain spécial Jean Rochefort. Et Bertrand Chamerois pour son écran de commerce. Ça va vous intéresser, mais vous passionner. C'est consacré à la réouverture des commerces. Notre invité, c'est la chanteuse Iseute. Oui, écran de veille. La chanteuse Iseute, c'est notre invitée. Elle a été finaliste de La Nouvelle Star en 2014. Mais là, elle est partie sur une toute autre carrière, absolument bluffante. Elle sera avec nous pour présenter son nouvel album. Et puis dans Les Indispensables, des jeunes qui témoignent de leur vie intime dans une série documentaire et une mini-série britannique glaçante. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.